la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, une émission scientifique coproduite par l'Université de Montpellier et Divergence FM qui vous emmène en croisière dans l'archipel des laboratoires de MUSE, Montpellier University of Excellence. Et j'ai l'accent toujours. Et pour cette 10e escale, que diriez-vous d'un peu de sport, natation, foot, handball ou yoga? Vous êtes nombreux à rêver de remettre en mouvement un corps contraint par deux confinements et près de 11 mois de pandémie. Et que dire des enfants? Nombreux, bien sûr, sont les médecins à avoir alerté sur les risques d'une trop grande sédentarité et à avoir plaidé pour l'urgence de rouvrir les structures sportives aux plus jeunes. Depuis la fin du mois de novembre, le ministère de l'Éducation a même embrayé le pas en lançant l'opération 30 minutes de sport par jour à l'école. Du bon sens, diront à raison certains, et pourtant il aura bel et bien fallu une pandémie pour qu'un tel dispositif se mette en place et pour que se repose la question de la place du corps dans l'école française. Cette question, nous l'abordons aujourd'hui avec notre invité. Il est professeur à la faculté d'éducation et chercheur au laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation, le LIRDEF. Sylvain Vagnon, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour mener cette interview, la très sportive, et pour une fois j'invente rien, la très sportive Aline Perriot, bonjour.
Bonjour Lucie, bonjour Sylvain.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous partons au CEMIPAI, le Centre d'études des maladies infectieuses et pharmacologiques anti-infectieuses, une des plus grandes plateformes de biosécurité de niveau 3 en France. Pourquoi niveau 3 ? Parce qu'on y croise des agents pathogènes de classe 3 et on vous dit dans quelques minutes à quoi ça correspond. Et c'est Delphine Muriot, la directrice de CEMIPAI, qui nous fera la visite. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors pour commencer, Sylvain Vagnon, j'ai envie de vous demander, donc quasiment un an après le début de l'épidémie, le constat auprès des enfants donc, qui ont été privés d'activités sportives pendant un bon moment, le constat c'est lequel ?
Bah, c'est un constat assez alarmiste hein, parce que, vous l'avez dit, hein, les médecins ont commencé les premières études. On se rend compte que cette sédentarité obligée en vérité, a amené... Bon, une prise de poids, mais aussi des nouvelles habitudes, hein, des habitudes qui étaient déjà existaient avant. Il faut voir que la pandémie n'a pas véritablement transformé les choses, mais elle les a accélérées, notamment sur cette difficulté, en tout cas, de penser la motricité tous les jours, en tout cas.
Et dans un article publié sur le site The Conversation récemment, vous posez la question de la place du corps, donc du corps des enfants à l'école, et vous revenez sur l'histoire du sport à l'école française. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quand et comment le sport a fait son entrée à l'école ?
Oui, alors en vérité, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le corps a toujours été présent, on était dans l'école, mais on lui a donné des objectifs qui n'étaient pas tout à fait ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était vraiment des objectifs hygiénistes, comme on dit, c'est-à-dire vraiment de connaissance aussi de sa santé, de sa propreté, et puis aussi des objectifs civiques, c'est-à-dire véritablement patriotiques, hein, de préparation du corps presque à la guerre, hein, pour les garçons en tout cas, avec des bataillons qui existaient. Donc ça existe depuis très longtemps, mais justement ce qu'on a essayé de montrer avec mon collègue et ami Fabien Gröninger, c'est de montrer que justement ce corps a souvent été oublié en vérité dans l'école comme une place centrale en vérité, et que finalement notre corps nous permettait en vérité d'apprendre en tout cas.
Et oui, parce que c'est un petit peu ce que je voulais montrer en introduction, donc on parle là des 30 minutes obligatoires à l'école, ça veut dire que finalement, on n'y avait pas pensé avant. C'est un peu étonnant que il faille une pandémie pour introduire ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le sport, la perception du sport à l'école et les autres disciplines telles que les enseignements cognitifs qu'on applique par contre tous les jours, lire, compter, écrire. Les enfants font ça à l'école tous les jours.
Voilà, ce qu'il y a dans l'histoire de l'école française, l'idée quand même de créer un intellect. Donc, on pense d'abord à la tête. Et puis on estime que le corps va suivre. C'est-à-dire que le corps, il va suivre, on va le domestiquer quelque part, on va apprendre aux enfants à s'asseoir, à rester longtemps assis, si on regarde. à ne pas prendre en compte leur rythme aussi biologique. Hein, on sait très bien qu'encore aujourd'hui, la question même des toilettes, hein, qui paraît peut-être un peu incongrue comme ça, mais qui est liée aussi à ça, c'est-à-dire de prendre en compte qu'un jeune enfant a besoin d'aller aux toilettes, d'avoir des toilettes correctes, et on sait que c'est un vrai problème. Hein, on a des études là-dessus qui le montrent. Donc ça peut apparaître annexe, mais ça veut dire que historiquement, le corps est laissé de côté. On estime que c'est l'intellect qui compte et que par l'intellect, on va pouvoir créer un citoyen ici. Et c'est vraiment l'idée importante au début du XXe siècle, par exemple, des pédagogues d'éducation nouvelle qui, eux, remettent en cause un peu cette logique en estimant justement que l'individu doit être complet.
Et du coup, justement, avec ce que vous savez aujourd'hui des mécanismes d'apprentissage, ce clivage entre les apprentissages cognitifs et les apprentissages corporels ou manuels, il apparaît pas tellement adapté au fonctionnement des enfants, c'est ça ?
Il apparaît pas du tout adapté. C'est-à-dire qu'en réalité, la prise en compte du corps, elle est fondamentale. On a tous, on le sait bien, un corps en bonne santé, un corps aussi, une aération, une respiration aussi, permet en tout cas d'apprendre, d'être bien et donc de créer en tout cas aussi les conditions d'un bon apprentissage.
Donc le corps tel que vous le dites, donc non seulement on le pense pas à l'école, mais presque on le contraint. Vous donniez l'exemple des toilettes, on a presque l'impression qu'il faut apprendre à le contraindre, à le contrôler ce corps. Et ça, on le retrouve en fait pas que à l'école, on le retrouve dans plusieurs dimensions de la société. Il vient d'où ce tabou du corps ?
Alors, c'est un tabou à plusieurs niveaux, mais c'est vrai que dans notre société, de toute façon, on hiérarchise ce qui est intellectuel et ce qui est manuel. Voilà, vous prenez dans les métiers, c'est une hiérarchie qui est faite. Donc, le corps est déjà laissé un peu de côté. Alors, par contre, ce qu'on valorise, c'est, j'allais dire, le corps de l'athlète de haut niveau. Là, par contre, oui, là, on a donné l'impression de quelques exemples particuliers.
Mais le corps machine, encore une fois, ce que vous disiez.
Tout à fait, voilà. Mais pour le commun des mortels, on va dire pour l'ensemble, on ne pense pas à cette notion du corps pour tous, c'est-à-dire, en vérité, de prendre en compte son corps, en vérité, dans nos décisions. Je veux dire, on voit toutes les découvertes qui sont faites en neurosciences, qui sont faites sur l'estomac. Si vous prenez, où on vous montre que c'est le deuxième cerveau, qu'effectivement, si on n'est pas bien dans son corps, on va avoir beaucoup de mal à apprendre des choses et puis même à réfléchir en tant qu'adulte.
Et dans toutes ces dimensions-là, on parle de l'estomac, on parle du corps, on peut parler aussi des émotions ou de l'aspect manuel. Aujourd'hui, ça paraît nécessaire de prendre en compte toutes ces facettes pour favoriser un développement harmonieux des enfants ?
Alors oui, bien sûr. Hein, et ce qui est aussi encore une fois paradoxal, c'est que ce n'est pas nouveau. Justement, on a essayé de montrer dans notre article qu'une personnalité comme le pédagogue Paul Robin a écrit dès 1869, donc il n'a aucune connaissance de psychologie de l'enfant. Hein. Mais rien qu'à l'observation, il se rend bien compte qu'il y a ce qu'il appelle une éducation ou un enseignement intégral, c'est-à-dire prendre en compte la totalité d'un individu, son intellect, mais c'est aussi son corps et ses émotions. Et que finalement, c'est en prenant en compte ses besoins, ses intérêts, que l'on va pouvoir avoir un enseignement et une éducation efficace. Donc c'est là où c'est un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui on découvre un petit peu la lune quelque part, hein, parce que j'allais dire qu'en tant qu'adulte, on le prend plus en compte, on voit bien la logique, on comprend bien qu'on doit être bien dans son corps, mais au sein de l'école, on estime encore, et c'est là où c'est un tabou, c'est-à-dire que le corps est encore lié à quelque chose qui doit être apprivoisé et non pris en compte. Voilà, surtout ça.
L'idée que l'enfant doit rester assis à sa place sans bouger toute une journée.
Exactement. Voilà ce que disaient les pédagogues d'éducation nouvelle, que ce soit Montessori, De Croly, Steiner et Célestin Freinet, c'est que l'école, la classe en tout cas, être assis, c'est un pis-aller. Ça veut dire en gros, ben oui, c'est sûr qu'à certains moments, on a besoin d'être assis, mais le reste du temps, être mobile, bouger, ce n'est absolument pas un obstacle pour les apprentissages, bien au contraire.
Alors justement, cette place du corps à l'école, est-ce qu'elle est spécifique à l'école française, qu'on sait très hiérarchique, très difficile dans sa structure en tout cas peut-être ? On a des modèles d'autres écoles à l'étranger qui fonctionnent autrement ?
Alors c'est clair que notre école a une histoire forte, rigide, on va dire.
Hein. Voilà,
c'est-à-dire qu'on estime que justement aller à l'école, il faut être sérieux, il y a une notion d'effort et il n'y a pas tellement la notion de plaisir. Bon, Ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'effectivement, beaucoup de pays, et notamment évidemment de l'Europe du Nord, si on reste sur l'Europe, ont de toute façon immédiatement compris, quand je dis immédiatement, c'est-à-dire dès le 19e siècle, l'importance de ce qu'on appelle des méthodes actives, c'est-à-dire aussi de faire participer les enfants, mais dans la logique complète, c'est-à-dire pas simplement se dire on va leur transmettre des connaissances, mais c'est aussi la possibilité pour eux de bouger, de faire des réflexions, d'être pas quelqu'un qui regarde simplement un adulte qui donne des informations, mais aussi quelqu'un qui agit, et qui agit évidemment avec son propre corps.
Et vous avez également travaillé sur les bienfaits de la pratique du yoga ou de la méditation à l'école. D'ailleurs, justement, on parle d'autres pays. Il y a des pays comme la Finlande qui ont intégré ces activités dans les enseignements, qui font pleinement partie des programmes scolaires. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux enfants, aux enseignants? Est-ce qu'on a des retours de ces pratiques-là?
Alors, on a quelques retours. Là, il faut le dire précisément. Une doctorante justement de l'université qui est Siam Kerr, qui est sous ma direction, donc a commencé un doctorat sur l'intégration justement du yoga, parce que on s'est rendu compte que il n'y avait pas finalement d'études précises scientifiques. Alors c'est très complexe, hein, parce que évidemment j'allais dire que quand on introduit par exemple le yoga en classe, eh bien on va dire qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, hein. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que l'enseignant, il se comporte aussi de façon différente, les étudiants, enfin on va dire les lycéens, parce que là c'est plutôt au lycée que ça nous intéresse, ces adolescents, ben justement aussi un comportement différent, parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose de différent. C'est ça qui est assez aussi perturbant, c'est que on s'aperçoit que ça leur paraît pas logique. Alors que dans certains pays, l'intégration, par exemple, de la respiration, de la relaxation, est quelque chose qui est complètement intégré. C'est-à-dire, quand ils en ont besoin, ils vont le faire, mais ce n'est pas à un moment précis.
Voilà. Alors que là, en France, quand c'est introduit, c'est au lieu d'avoir une heure de sport, on va faire une heure de yoga. Ce n'est pas une pratique transversale de la classe, voilà, transversale dans les apprentissages.
Toute la question, justement, et de l'étude de Siam, c'est justement de montrer comment intégrer, non pas justement comme un plus, c'est-à-dire encore rajouter un élément, une demi-heure, une heure, enfin ce qu'on veut, mais vraiment l'intégrer. Et évidemment, ça touche les questions que vous m'avez posées tout à l'heure, hein, sur l'école française. C'est que c'est vrai qu'elle est très segmentée en disciplines scolaires. C'est-à-dire qu'on a dans le secondaire cette impression des 55 minutes dogme incroyable, 5 minutes pour bouger et on se retrouve dans une autre salle et on recommence pour 55 minutes. Or, justement, ce n'est pas ça la logique. La logique, c'est de se dire, et notamment ce que font les Finlandais actuellement, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait de façon basé sur le volontariat, et vous avez plus de 90% des écoles, là on est dans le primaire, qui l'ont fait. Donc c'est assez étonnant, c'est qu'ils ont intégré véritablement des pratiques qui permettent à un enfant de ne pas rester plus de 2 heures assis à une chaise.
Et qu'est-ce qu'ils disent les enseignants, les enfants, les parents qui justement ont ces pratiques-là? Est-ce qu'ils témoignent de changements suite à, par exemple, l'introduction du yoga, de la méditation? Est-ce que c'est plus facile pour les enseignants ou pour les enfants, la classe, dans ces conditions-là?
Alors, pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a cette étude, justement, avec un doctorat, c'est qu'on se rend compte que les parents, les enseignants qu'ils pratiquent, les élèves, donnent un a priori très positif. Bon, simplement, maintenant, il faut que, scientifiquement, on essaye de le montrer. Et c'est ça où il va falloir justement tout son travail, hein, c'est d'essayer de montrer, parce que si on veut l'élargir, j'allais dire, à l'ensemble du territoire et dans tout l'enseignement public, puisque c'est notre objectif, c'est d'essayer de le comprendre véritablement au-delà des ressentis simplement psychologiques qui peuvent être faits.
Et du coup, ce sont des intervenants extérieurs qui viennent dans les classes faire du yoga, ou ça relève du travail de l'enseignant lui-même?
Alors actuellement, clairement, ce sont des intervenants extérieurs, mais ce qui nous intéresse justement, c'est les enseignants qui eux-mêmes ont pris en compte cette logique, notamment du yoga. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, ce ne sont pas nécessairement des enseignants d'enseignement physique et sportif, hein. C'est-à-dire justement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce sont des enseignants qui participent justement à cette idée d'intégrer des éléments de respiration et de compréhension de l'enfant dans sa totalité. Quand il a besoin, en tout cas, il pourra pratiquer ici cette respiration. Et on est bien d'accord qu'en tant qu'adulte, c'est aussi quelque chose qu'on prend bien en compte dans la lutte contre le stress, d'être capable justement de se recentrer hein, et de se calmer justement rien que par sa respiration. C'est des éléments souvent très simples, hein. C'est pas du yoga spirituel, hein. C'est du yoga plus relaxation et respiration.
Mais alors dans les bénéfices qu'on peut en attendre, il y a des conséquences aussi sur les apprentissages. J'imagine si les enfants sont plus calmes, sont plus posés, est-ce qu'ils ne sont pas en meilleure condition d'apprentissage ?
Voilà, et ça c'est un mécanisme qui est en plus bien connu, hein. C'est-à-dire que clairement on se sent mieux. Ça donnera des facilités pour les apprentissages cognitifs. Et puis, c'est aussi même un préalable. Hein. C'est-à-dire que, j'allais dire, si on n'est pas bien, on ne va pas écouter de la même façon. Son écoute sera quand même un peu perturbée par d'autres éléments. Et là, on apprend justement aussi à utiliser son corps et savoir aussi quand il est... Voilà, prenons un exemple, c'est simple. Hein. On sait très bien que pendant la digestion, entre 14 et 16 heures, si vous faites 2 heures de mathématiques, ça va être quand même plus complexe. Hein, on le sait tous, on l'a tous vécu, et pourtant, quand on fait un emploi du temps du secondaire, on ne prend pas en compte ce genre de choses.
On parle aujourd'hui, on met les mots yoga, méditation, mm-hmm. parce que c'est peut-être un peu plus dans l'air du temps, mm-hmm. Mais est-ce qu'au final, il n'y a pas toujours eu, alors de manière beaucoup plus marginale, des enseignants qui ont fait, y compris dans le public, qui ont pratiqué ce genre de choses? Moi, je pense par exemple à des petits rituels comme les temps calmes, on appelait ça à l'école, où moi j'ai eu un prof qui nous emmenait courir une demi-heure tous les midis. On revenait. Donc ça veut dire que les enseignants sont conscients de tous ces bénéfices-là depuis longtemps. Qu'est-ce qui bloque la généralisation? Qu'est-ce qui, au niveau de la structure de l'école publique, fait que ça passe pas?
Ben, on va dire que par rapport à notre début de questionnement, il est aussi clair que c'est aussi la logique de l'école. C'est-à-dire comme on a perçu dans l'école l'idée qu'on va d'abord avoir des fondamentaux de lire, écrire, compter. Bah, on a laissé de côté le corps, et donc déjà, ça, c'est une transformation énorme. Là, par contre, vous avez totalement raison. C'est vrai que la plupart des enseignants sont volontaires et ensuite sont prêts à ça. Hein. Et la question que nous nous posons justement maintenant, c'est comment faire pour que ça soit pour tous. Parce que c'est bien hein, qu'un enseignant veuille le faire, et moi, je trouve ça justement très important. Mais aussi, on aimerait bien que ça se généralise véritablement et que ça soit structuré. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça a été dit, est-ce que c'est un intervenant extérieur? Est-ce que c'est un enseignant? Comment il l'intègre? Que ça soit pas en plus un surplus de travail. La question, elle n'est pas là. Hein. Elle est justement de penser autrement notre éducation et la pensée justement pour l'enfant déjà, et puis avec des résultats qui clairement, quand on voit le paysage éducatif par exemple hollandais, on s'aperçoit qu'ils ont transformé véritablement leur système, ou finlandais hein, ici, grâce justement à cette prise en compte de la totalité d'un individu.
Et comment on pourrait faire pour arriver à cette même transformation au niveau de l'école en France? Est-ce que par exemple il y aurait des propositions à faire au niveau du ministère de l'Éducation dans ce sens?
Il y aurait sûrement des propositions à faire, c'est clair. Nous, notre idée, c'est déjà de se dire qu'il y a un poids très fort, en tout cas en France, sur ces disciplines scolaires. C'est que le programme est d'abord fondé sur ces disciplines cognitives et que la prise en compte, justement, du sport, et prenons-le même aussi des enseignants hein, qui font le sport, sont pas marginalisés, hein, faut pas exagérer, mais sont cantonnés à quelques heures par semaine. Or, c'est typiquement la prise en compte du corps dans la totalité. Ça, c'est quelque chose, on y tient, parce que cette segmentation, on va dire, ce cloisonnement entre les disciplines scolaires et entre les enseignants, d'ailleurs, hein, au second degré, est un obstacle très clair, hein, ici, et puis aussi une certaine culture. Voilà, on a notre idée que la culture française, elle est d'abord intellectuelle. Donc on réfléchit. Et si on réfléchit, bah, le corps, il suivra. Et c'est pour ça qu'on voit bien que notre idée, c'est que le corps, il n'est pas là pour accompagner, mais il fait partie prenante, en tout cas, de ses apprentissages.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Vagnon, pour cette réflexion. C'était passionnant.
Merci.
Et donc, on va enchaîner maintenant avec notre petite séquence, la salle des machines. Donc, c'est un reportage de 9 minutes chaque semaine. Pardon. Et cette semaine, donc, c'est toi, Aline, qui nous emmène à Semipaille.
Oui, à Semipaille, pour embarquer, il vous faut montrer patte blanche, une blouse, des gants, des surchaussures, une charlotte, des lunettes de sécurité. Donc, bienvenue à bord de Semipaille, le centre d'études des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse. Elle est située sur le campus du CNRS. Arès, à Montpellier. Et c'est une plateforme régionale de biosécurité de niveau 3, l'une des plus grandes de France. Elle est à la disposition des scientifiques universitaires et des entreprises pour des études dédiées aux agents pathogènes de classe 3. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple, bien sûr, le coronavirus SARS-CoV-2, mais on y côtoie aussi le VIH, le virus Zika ou les virus responsables de la dengue, du chikungunya ou encore d'autres bactéries qui doivent rester strictement confinées dans leur laboratoire. Et c'est Delphine Muriot, la directrice de SEMIPAI, qui nous fait la visite.
Il y a quelqu'un qui m'entend ?
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Bonjour, je suis Delphine Muriot, la directrice du SEMIPAI. Donc c'est un laboratoire CNRS Université de Montpellier qui s'intéresse aux agents infectieux et comment on peut arriver à les contrer, soit en développant des molécules antivirales ou des anticorps neutralisants contre les virus et les bactéries. On a un 300 m² de laboratoire de niveau de sécurité 3 pour accueillir tous ces agents pathogènes, que ce soit bactéries ou virus de niveau 3. Donc les agents pathogènes de niveau 3, c'est par exemple les arbovirus comme le virus de la dengue, Zika et très récemment le SARS-CoV-2. Pour rentrer dans le P3, il faut être formé et on doit avoir une blouse, un masque, une charlotte, double gants, surchaussures, lunettes. Tout ce qui est infectieux reste dans LL3 et tout ce qui sort du L3 est détruit. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je peux vous y conduire parce que toutes les portes sont ouvertes et il n'y a rien d'infectieux. Tout est dans les congélateurs à double clé. Mais c'est exceptionnel.
Ah bah tant mieux, profitons-en. Allons-y. Alors là, on passe une première porte.
Voilà, je suis d'habitude fermée par un badge. Ensuite, on a des empreintes digitales pour rentrer dans le deuxième sas avec son badge qui correspond à l'empreinte digitale. Donc ensuite, tu dois mettre un masque FFP3 de niveau 3 de filtration des micro-organismes, un badge que tu mets sur ton bras. Parce qu'après, tu ne vas pas les toucher à chaque fois, prendre ton badge et tout. Donc, tu vas faire comme ça pour ouvrir les portes.
D'accord. Vous étiez déjà habitué à ouvrir les portes avec les coudes avant tout le monde.
Et ben voilà, oui. Et ensuite, on peut rentrer dans le P3.
Donc là, ça y est, on a passé la porte. On est dans le fameux laboratoire P3.
On a donc un box qui est réservé à SARS-CoV-2.
Donc l'agent responsable du Covid-19, le fameux coronavirus.
Exactement. Donc il y a plusieurs équipes académiques et de petites et moyennes entreprises qui travaillent sur ce virus afin de développer des agents antiviraux. On a travaillé sur les anticorps neutralisants du personnel soignant du CHU. Donc le CHU de Montpellier nous a donné des anticorps provenant du personnel soignant, du centre du personnel soignant. Il nous a demandé si leur personnel soignant était protégé. Donc on a récupéré ces sérums, on les a mis sur des cellules infectées, on a regardé si ça protégeait contre l'infection. Et en fait, ils étaient tous protecteurs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le vaccin devrait marcher. Et ça veut dire aussi que les soignants qui ont été infectés pendant la première vague étaient protégés.
Et est-ce qu'on peut aller voir le fameux box où vous avez travaillé sur le SARS-CoV-2 ?
Oui, bien sûr. Là, il est décontaminé, on ne respire rien. Alors là, comme on rentre dans un virus qui est assez contagieux, donc on a dit qu'on avait deux paires de gants. Donc là, on va mettre une troisième paire de gants que l'on jettera quand on sortira de ce box. Donc il y a une poubelle spécifique que l'on va fermer et qu'ensuite on va autoclaver. Tout ce qui va rentrer dans cette poubelle va d'abord être décontaminé par des agents chimiques comme l'agnos, fermé et ensuite autoclavé à 120 degrés pendant 30 minutes pour détruire tout par la chaleur. Le virus SARS-CoV-2 ne résiste pas à la chaleur. Il est détruit en 30 minutes à 58 degrés.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'une pièce où il y aura des zébrafiches.
Alors, c'est des petits poissons transparents, vivants, que l'on peut injecter avec du virus fluorescent. Donc, on va pouvoir visionner le trajectoire d'infection du virus dans ce petit organisme vivant. On utilise donc des embryons de zébrafiches parce que quand ils sont tout petits, ils sont transparents. Et on peut donc travailler en microscopie de fluorescence et voir le trajet du virus et les cellules infectées à l'intérieur de ces petits poissons. Ça veut dire aussi que quand on aura, par exemple, des molécules ou des anticorps neutralisants, on pourrait aussi les injecter ou traiter le petit poisson infecté avec ces molécules ou ces anticorps et voir l'effet antiviral. Et on peut travailler avec ces poissons pendant 3-4 jours. Voilà, après, pareil, ils sont décontaminés et autoclavés. On a un virus, quand on l'injecte, les cellules qui l'infectent vont devenir fluorescentes. Donc là, on voit qu'elles sont rouges. Et donc, on va pouvoir voir quel organe est infecté.
Et est-ce qu'on peut aussi, du coup, vous parliez de vérifier l'effet des traitements, on peut voir en injectant un traitement au poisson si jamais la fluorescence régresse, par exemple ?
Exactement, c'est ce qu'on va faire. On va pas l'injecter dans le poisson, on va mettre le médicament dans le milieu où il est, dans l'eau. Il va l'avaler en balnéo. Et donc, on va regarder si ça a un effet protecteur contre n'importe quel virus. Donc, SARS-CoV, Zika, la dengue.
Donc, ça permet concrètement de développer des médicaments contre les maladies provoquées par ces pathogènes.
Exactement.
Sans passer par la souris. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est que c'est un nouvel outil, si je peux dire. Ça évite de passer sur la souris directement. Et le petit poisson, là, en fait, ces globules blancs sont très, très proches des nôtres génétiquement. Donc, on peut dire que ce qui arrive sur un poisson va arriver à peu près pour nous aussi. Ça, c'est un outil qui est assez proche de nous. C'est un organisme vivant suffisamment proche pour qu'on puisse travailler avec et extrapoler sur l'humain.
Est-ce que vous pouvez juste, j'ai pas ça, vous présenter très rapidement, si on garde le son, me dire qui vous êtes et ce que vous faites?
Moi, je suis Sébastien Lyonnais, je suis ingénieur de recherche et je suis responsable des microscopes sur la plateforme. Notre SEMIPA, il est tellement grand qu'en fait, on a décidé de pouvoir d'insérer des microscopes de recherche de très haute résolution et très technique en P3 pour pouvoir permettre de faire du travail sur du matériel infectieux. Parce que normalement, si vous voulez travailler sur les virus en microscopie, d'abord, vous devez fixer vos cellules, c'est-à-dire tuer tout le monde, et ensuite les sortir du P3 pour pouvoir les regarder avec un microscope. Nous, on a fait l'inverse, on a mis les microscopes dans le P3 pour pouvoir travailler sur le matériel infectieux directement. Donc, c'est-à-dire voir les cellules vivantes en train de produire des virus sans avoir à les fixer, voir les zébrafiches infectées directement sans avoir besoin de les fixer, et etc. Donc, c'est l'idée, c'est l'inverse, c'est de pouvoir travailler en toute sécurité sur des microscopes qui sont dans le laboratoire P3.
Alors là, on rentre dans un autre laboratoire, une porte jaune sur laquelle il y a écrit L10. Qu'est-ce que ça veut dire, L10?
L10, c'est juste le numéro des pièces. Donc, on rentre dans une autre pièce encore qui, elle, est dédiée à l'étude des arbovirus. Donc, pour la région, c'est très important puisque il y a beaucoup de moustiques. Et les moustiques, tigres en particulier, transmettent des virus à l'homme, comme le virus Zika, les virus de la dengue, le virus West Nile. Voilà. Donc, on étudie ces virus ici sur des cellules humaines. Pour essayer, pareil, de trouver des médicaments ou des anticorps neutralisants qui pourraient aider à combattre ces virus chez l'homme.
Et donc là, on a de nouveau ces mêmes types de, comment s'appelle ça, des box, des
ça
box...
s'appelle des postes de sécurité microbiologique de niveau 3 pour travailler sur des cellules infectées et protéger l'expérimentateur lorsqu'il manipule les cellules infectées.
Pour qu'eux-mêmes ne soient pas contaminés par les virus sur lesquels ils travaillent.
Exactement. Et ensuite, on a des incubateurs pour cultiver ces cellules infectées. On a aussi des centrifugeuses pour concentrer les virus. On a des frigos, des congélateurs pour, avec tous les produits qu'on utilise pour conserver tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
Donc, je rentre dans la pièce. Ici aussi, donc, vous travaillez pour chercher des traitements contre ces maladies provoquées par ces virus, que ce soit Zika, chikungunya aussi ou...
Oui, chikungunya, Zika, les virus de la dengue 2, 3, 4, le virus de la fièvre jaune, un petit peu, le virus West Nile.
Il y a des vaccins déjà contre ces virus ou pas ?
Non, je pense que les sociétés comme les grosses sociétés pharmaceutiques ont essayé de développer des vaccins contre le virus de la dengue, mais ils n'ont pas encore réussi. Ça n'a pas été convaincant, on va dire. Donc je pense qu'il y a marge pour essayer de trouver des vaccins contre ces virus. Et ce que l'on peut dire, c'est que tous ces virus, ainsi que le SARS-CoV-2, ont des points communs. puisque ce sont tous des virus enveloppés à ARN. Donc on peut essayer, l'espoir viendra peut-être de ce vaccin Pfizer contre le virus SARS-CoV-2 qui pourrait être appliqué à tous les autres virus de la même famille.
D'accord, donc ça pourrait permettre de développer des vaccins contre toutes les maladies provoquées par ces virus-là.
Oui, les virus respiratoires, comme la grippe, SARS-CoV-2, les virus respiratoires RSV, contre les arbovirus transmis par les moustiques, donc Zika, Chikungunya, la dengue. On peut essayer de... Après, évidemment, il va falloir étudier sur chaque type cellulaire, puisqu'il n'infecte pas le même type de cellules. Et puis, la réponse immunitaire. Donc il y a beaucoup d'études qui est fait par l'Institut LIRIM au-dessus, d'autres équipes qui viennent utiliser...
C'est l'Institut de recherche en infectiologie de Montpellier.
Exactement, qui viennent utiliser le semi-paille pour travailler sur tous ces virus.
La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Juste le temps de vous annoncer que demain à 19h, le service patrimoine et culture scientifique de l'université lance son premier bar des sciences de l'année 2021. Il restera bien sûr consultable sur la chaîne YouTube de l'université. Le thème de la soirée sera « Qu'est-ce que la Covid-19 aura changé pour vous ? Adaptation, transition, changement ?» Connectez-vous pour poser en direct vos questions aux quatre experts réunis pour vous répondre, parmi lesquels Marie-Christine Lichtley, directrice de Montpellier Management et chercheuse au laboratoire Montpellier Recherche en Management, Salim Mokadem, philosophe, enseignant-chercheur au LIRDEF, le même laboratoire que notre invité précédent, Stéphane Raffard, docteur en psychologie, enseignant-chercheur et prof des universités à l'université Paul Valéry, et Bertrand Vidal, sociologue, chercheur au laboratoire d'études interdisciplinaires sur le réel et les imaginaires sociaux, le LERIS, et maître de conférence à Paul Valéry également. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ? Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.